Mondial Sport, Cédric de Oliveira.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Mondial Sport. On vous parlait hier du retour de Lionel Messi sur les terrains avec le Barça. Comment se sont passées les retrouvailles avec la Liga? On en parlera avec notre correspondant Pierre Chaperon. Et puis c'était le rêve de sa vie, Julien Alaphilippe est devenu champion du monde de cyclisme sur route à Imola. Une consécration pour le coureur de 28 ans. Le début de Roland-Garros aussi sous la pluie et presque à huis clos à cause de la crise sanitaire. Climat morose mais malgré tout, on a joué au tennis sur la terre battue parisienne. Frédéric Suto nous racontera cette première journée particulière. Enfin, on ira à Los Angeles, les fans des Lakers comblés de voir LeBron James et ses coéquipiers en finale de la NBA. Même si ce n'est pas facile de suivre cette épopée à distance de la Floride où se disputent les matchs. Ce sera en fin d'émission. Mondial Sport, c'est parti. Et on file tout de suite en Espagne, troisième journée de Liga, on l'évoquait déjà hier. C'était le retour sur les terrains du FC Barcelone quelques semaines après le désastre en Ligue des Champions face au Bayern Munich. 8-2 cette défaite. Et après la volonté de Lionel Messi de quitter le club dans la foulée. Bonsoir Pierre Chaperon.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant en Espagne. Le Barça était donc très attendu ce soir. Et ça s'est bien passé pour tout le monde, mais on va commencer par Ansu Fati.
Oui, Ansu Fati, la star, le show Ansu Fati pour Sport, le quotidien catalan. Ansu Fati qui a marqué un doublé ce soir, son entraîneur salue sa prestation, même s'il doit encore travailler certains aspects dont la concentration, dit-il dans la conférence d'après-match. L'espagnol, l'international espagnol né en Guinée, Bissau, qui a réussi une première mi-temps parfaite, je le disais, un doublé, la provocation du pénalty qui a amené le 3-0, pénalty transformé par Messi. Très bonne rentrée hein, pour le Barça, positionné en 4-2-3-1, loin de l'historique 4-3-3. Très sérieux dans son jeu, le Barça, très appliqué, plus collectif que ses dernières saisons, très encourageant face à un Villarreal de Unai Emery, très décevant. On passera vite, Cédric, si vous le voulez bien, sur la deuxième mi-temps où les Blaugrana ont surtout géré le score. À noter un match encore très moyen de Antoine Griezmann. Et puis le retour du français, un autre français, Ousmane Dembélé, 10 mois après sa blessure.
Et donc Pierre, Lionel Messi dans tout ça, dont c'était le premier match officiel, avec sur le banc l'entraîneur Ronald Koeman.
Oui, l'Argentin a été à l'image de son équipe. On le disait, hein, il a marqué le pénalty du 3-0. Il a eu des occasions de but. Parfois, il était seul en pointe ou il permutait avec notamment Antoine Griezmann. Il reste quand même le plus grand danger de ce Barça. Un Messi très pro, malgré tout ce qu'il peut se passer en coulisses et le désamour, voire la haine qu'il peut porter à la direction de son club, comme il l'a prouvé encore cette semaine pour dire au revoir à son ami Luis Suarez.
Eh bien justement, Pierre, c'était les grands débuts de Luis Suarez avec son nouveau club, l'Atlético de Madrid. Belle soirée pour l'Uruguayen lors du succès 6-1 face à Granada des Colchoneros avec un doublé pour lui.
Oui, 20 minutes de jeu et déjà important, une passe décisive sur son premier ballon, 2 buts. Bref, Luis Suarez a vite séché ses larmes de Barcelone pour décréter l'état d'euphorie, dit Marca ce soir, qui le sacre meilleur joueur de ce match. Le quotidien AS, lui, dit de son côté que Luis Suarez a fait passer l'Atlético à la vitesse supérieure.
Et autrement en forme, du côté des Colchoneros, c'est João Félix.
Oui, le Portugais très attendu cette saison après l'année dernière où c'était plus une découverte de la Liga, très prometteur aujourd'hui, une passe décisive, un but placé derrière l'attaquant, l'ensemble de la presse est convaincu, impressionné par cette première sortie du Portugais. Il faudra le suivre hein, cette saison, Cédric, une saison qui pourrait être un grand cru pour l'ancien joueur du Benfica. Après, le résultat quand même est à pondérer là, ce 6-1, parce que Grenade était franchement très fatigué, limite un peu cuit par son match cette semaine en Ligue Europa. Difficile d'enchaîner pour les Andalous qui joueront en barrage jeudi contre Malmö, leur accession à la phase de groupe de la Ligue Europa.
Et puis un mot Pierre sur la première victoire, c'était hier la première victoire de la saison du Real Madrid, 3-2 à Séville contre le Betis, avec encore des histoires de vidéo-arbitrage du côté madrilène.
Oui, bah je vais vous prendre la presse de ce matin. Marca à titre, la VAR réveille le Real, retour des buts et de la VAR pour AS, la VAR sourit au Real pour les Catalans de Mundo Deportivo. C'est un vieux refrain qu'on avait l'habitude d'entendre la saison dernière. La VAR qui a révisé deux actions, une qui a amené au carton rouge de Emerson côté andalou en position de dernier défenseur, le Brésilien a fauché Luka Jovic, et puis une autre sur une main de Marc Bartra côté Betis qui a touché le ballon de la main. Alors le penalty paraît quand même un peu dur, mais bon, les arbitres professionnels à la radio ou à la télé en Espagne disaient que le penalty était valable. En tout cas, le défenseur central international algérien Aïssa Mandi, buteur hier, lui, avait encore en travers de la gorge toutes ses actions.
Il y a des choses que je ne peux pas dire. Je n'ai pas vu les choses aussi clairement sur le terrain. Mais bon, je ne vais pas parler de ce sujet. Je vais parler du Betis, de ce que nous avons fait de bien et de ce que nous devons améliorer. Je crois que nous aurions pu gagner avec 2 ou 3 buts de plus. Après, en deuxième période, Madrid a été supérieur. Parfois, il y a des choses qui se passent dans un match qu'on ne peut pas comprendre. Bon, après, nous avons tenté jusqu'à la fin, mais ça n'a pas marché. Nous devons nous reposer maintenant. Nous avons déjà un match mardi contre Getafe. Nous devons regarder les choses négatives que nous avons réalisées aujourd'hui et les corriger pour le prochain match.
Cela nous ferait presque oublier que le Real, malgré 20 premières bonnes minutes où ils avaient ouvert le score grâce à un très bon Valverde, a plongé en 2 minutes où les Andalous ont inscrit 2 buts coup sur coup par Mandy justement et William Carvalho. Mais 2 enseignements, Cédric, à retenir de ce Real. Le Real s'est marqué et surtout le Real a fait un match sérieux, plus sérieux que l'année dernière en tout cas, et un match intéressant pour la suite et à confirmer dès mercredi à Madrid contre Valladolid.
Et ce sera pour la 4e journée de ce championnat d'Espagne. Eh bien, merci Pierre Chaperon, et on vous dit à bientôt sur RFI et notamment dans Mondial Sport pour suivre le feuilleton de ce championnat d'Espagne qui n'en est donc qu'à ses débuts. En Ligue 1, on jouait déjà la 5e journée, ça va un petit peu mieux pour le PSG qui vient de s'imposer face à Reims 2-0. C'est la 3e victoire consécutive des Parisiens qui avaient perdu leurs 2 premières rencontres. C'est Mauro Icardi, l'Argentin, qui a inscrit un doublé, ses 2 premiers buts de la saison. Paris qui est 7e du championnat. Et il y avait beaucoup de buteurs africains dans cette 5e journée. Angers a battu Brest 3-2. Le Sénégalais Thioub a marqué, l'Ivoirien Ismaël Traoré aussi pour Angers. 2e but de la saison pour le Béninois Steve Mounier. Nîmes lance 1-1. Ouverture du score de l'incontournable Ignatius Ganago. C'est le 4e but du Camerounais qui est désormais co-meilleur buteur de cette Ligue 1. Égalisation pour Nîmes de l'Algérien Zinedine Ferrat. Et puis, autre Fenech à s'illustrer, mais dans un autre championnat, Riyad Mahrez a également marqué face à Leicester. Manchester City qui a sombré face à Leicester, 5-2, une défaite. C'était en Première Ligue, et puis c'est un événement. On fait un petit peu un tour rapide de ces championnats européens. On peut pas tout vous dire, mais la première défaite du Bayern Munich après 32 matchs d'invincibilité. Les Bavarois ont été balayés par Hoffenheim 4-1. Hoffenheim, leader de la Bundesliga après seulement 2 journées. Et puis un mot du championnat belge également, la Jupiler League, parce que Jackson Muleka a marqué son premier but avec le Standard de Liège. Le Congolais entré en jeu n'a mis que 10 minutes pour trouver la faille face à Zulte de Waregem. 2-2 dans ce match de la 7e journée du championnat. Muleka, transféré cet été du tout puissant Mazembe, dont l'intégration en Belgique semble réussie pour l'instant. On tentera de vous donner de ces nouvelles régulièrement dans Mondial Sport. Après ce tour complet des championnats européens, on va se concentrer sur la Sierra Leone, pays frontalier de la Guinée, qui s'est manifesté en juillet en faisant un grand pas vers l'égalité homme-femme dans le football. Après l'Australie et juste avant le Brésil, la fédération Sierra Leonaise a entériné le fait que les joueuses seraient payées à la même hauteur que leurs homologues masculins. Bonsoir Tom Rossi.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors on parle bien des primes en sélection. Tom, vous avez pu vous entretenir avec la présidente de la fédération, Isha Johansen, à l'origine de cette initiative.
Ouais, Isha Johansen, seule femme à la tête d'une fédération en Afrique, voulait que son pays soit pionnier en matière d'égalité. Déjà, la Sierra Leone avait fait parler d'elle lors de la nomination de cette femme d'affaires à la tête de sa fédération en 2013. Et plus récemment, en décembre 2019, Cédric, lorsqu'une autre femme, Victoria Conte, est devenue coach d'une équipe masculine de première division, les East End Tigers, une rareté sur le continent. Une seule femme auparavant avait entraîné des hommes, c'était en Éthiopie. Maintenant, la Sierra Leone se démarque en payant ses joueurs comme ses joueurs, 2 000 $, une première en Afrique et une fierté pour Isha Johansen.
Cette égalité de paye, je pense que c'est un grand pas pour notre fédération et le gouvernement de la Sierra Leone. Nous montrons clairement que nous avons une vision à ce sujet, que nous voulons prendre cela au sérieux. Nous ne faisons pas juste de grands discours, nous agissons.
Isha Johansen, très entreprenante donc pour les Sierra Queens, cette revalorisation des primes, elle sera même rétroactive.
Ouais, la décision a été prise cet été, Cédric, et pourtant, elle prend en compte le tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de la Zone A, qui s'est déroulé en février, en Sierra Leone, justement. La sélection féminine locale n'avait plus pris part à une compétition depuis 10 ans, et à domicile, elles ont enchaîné 3 matchs nuls face au Cap-Vert, la Guinée et le Sénégal, futurs vainqueurs. Insuffisant pour sortir des poules, mais très encourageant pour la suite.
Et c'est justement vers l'avenir, Tom, que se tourne la présidente de la fédération.
Et parce que l'objectif avec cette égalité entre joueuses et joueurs, c'est de donner l'opportunité aux Sierra Queens de s'investir davantage, mais aussi de susciter des vocations.
The aim and the vision has always been to encourage more young girls.
Le but a toujours été d'encourager les petites filles à jouer au football, mais pour être réaliste, il faut que cela débute à l'école. Nous avons beaucoup discuté avec le ministère des Sports à ce sujet et allons nous engager avec le ministère de l'Éducation pour que les filles puissent faire du foot au moins dès l'âge de 11-12 ans à l'école. Encore plus jeunes, ce serait mieux. Pour l'instant, elles peuvent faire par exemple de l'athlétisme, mais pas du foot. Il faut qu'elles puissent choisir. Et puis, c'est culturel dans notre pays. Nous avons beaucoup plus d'entraîneurs hommes. Mais si plus de femmes deviennent coachs, ce serait un nouveau pas en avant et cela encouragerait les parents à laisser leurs filles jouer au football.
Et ces jeunes filles, elles sont pour l'instant 2000 sur 12 000 pratiquants dans ce pays de 7 millions d'habitants. Isha Johansen souhaite que ce chiffre augmente très vite ces prochaines années. Elle qui est aussi présidente de la commission d'organisation du football féminin à la CAF. Espère aussi que d'autres pays africains emboîteront le pas de la Sierra Leone. Elle se dit optimiste et encore plus depuis l'annonce de la création d'une Ligue des champions féminines sur le continent. Elle aura lieu au deuxième semestre de l'année 2021.
Eh bien merci Tom Rossi et puis je vous souhaite une bonne soirée.
À vous aussi.
Ah, j'ai pas encore vraiment réalisé, c'est juste un sentiment incroyable de remporter la course qui me faisait le plus rêver. C'est vraiment spécial.
L'émotion de Julian Alaphilippe, le Français est devenu champion du monde de cyclisme sur route aujourd'hui à Imola en Italie, une première pour un tricolore depuis 1997 et le sacre de Laurent Brochard. Tout s'est déroulé comme prévu pour Alaphilippe qui a placé une attaque décisive à 12 km de l'arrivée dans la dernière difficulté de la journée. Il n'a plus été rejoint ensuite et s'impose avec 24 secondes d'avance sur un petit groupe de favoris. Le Belge Wout van Aert a pris la deuxième place, le Suisse Marc Hirschi la troisième. À 28 ans, Alaphilippe remporte là la plus belle course de sa carrière et c'est mérité pour le coureur Johan Ofredo qui connaît bien Julian Alaphilippe.
Julian Alaphilippe, il sort pas de nulle part, c'est un vainqueur de classique, c'est un grand coureur, il est passé pas loin depuis des années. Il avait fait de ce championnat du monde un objectif principal. Il a été attendu, on le savait. Le championnat du monde, c'est une course d'un jour qui fait 250 km, plus de 6h30 de course. Il avait une équipe solide autour de lui. Ce qui a fait la différence sur Julian aujourd'hui, c'est son mental. Le mental de Julian Alaphilippe, il est beaucoup plus fort que la plupart de ses concurrents et on l'a vu sur les moments difficiles de la course et notamment sur la dernière difficulté. Il est capable de créer l'écart et de maintenir cet écart-là. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de Julian. C'est cette capacité à se transcender sur les grands événements.
Johan Ofredo au micro de Sarah Loubacouche. Julian Alaphilippe qui a donc rempli son objectif après la déception de l'édition 2019 en Grande-Bretagne et après un Tour de France où il a moins brillé que l'an dernier malgré une victoire d'étape. Le Français semblait peut-être moins irrésistible que par le passé, mais il a su briller à Imola. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Bernard Bourreau, qui a lancé Alaphilippe en équipe nationale en 2016, se dit impressionné.
J'ai découvert le bonhomme. Par la suite, il n'a pas changé de caractère, de motivation, de sympathie aussi envers tout le monde, quoi. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour il soit champion du monde et qu'il soit champion à ce niveau-là. Mais ce qu'il y a de bien en Julian, c'est qu'il se met des objectifs et les atteint. Par le travail, par le sérieux, là il concrétise le sacre supérieur, hein, champion du monde, il ne peut pas y avoir... À mon avis, il n'est pas plus beau. Il est en pleine possession de ses moyens et ça peut durer encore quelques années. Il peut encore beaucoup améliorer son palmarès.
Julian Alaphilippe qu'on retrouvera sans doute sur le Tour des Flandres dans quelques semaines, l'un de ses objectifs de fin de saison en tout cas. C'est le 9e Français à devenir champion du monde sur route des championnats du monde dont on va continuer de parler avec Martin Guez. Bonsoir Martin.
Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde.
Puisqu'il y avait un coureur rwandais à Imola et entre lui et Julian Alaphilippe, il y a encore un immense fossé à combler. mais pendant deux jours, Samuel Mugisha a pu côtoyer l'élite du cyclisme mondial.
Ah oui, Mugisha, 22 ans, seul représentant rwandais ce dimanche sur les routes d'Imola en Italie. Vainqueur du Tour du Rwanda il y a deux ans, il s'aguerrit désormais en France et il a élu domicile chez Steven Lager dans l'ouest du pays depuis le mois d'août. Ce dernier fait office d'intermédiaire avec la fédération rwandaise, mais aussi un petit peu d'entraîneur, un petit peu de préparateur. Bref, Cédric, d'homme à tout faire pour Mugisha dans une autre vie. Le Français a même été mécanicien pour un certain Thomas Vauclair. Thomas Vauclair, tiens, aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France. Ça tombe bien, il est resté l'un de ses amis et il a permis aux jeunes Rwandais de côtoyer les Français et même de s'entraîner avec Alaphilippe, nous confie Steven Lager.
On est au même hôtel que l'équipe de France. On a eu la chance de faire un entraînement avec l'équipe de France. Et puis Julien s'est prêté au jeu en prenant une photo avec Samuel. Ça a fait super plaisir à Samuel. Et puis même pour les coureurs, c'est toujours intéressant de rencontrer des stars. Un petit clin d'œil, c'est que ce matin, il y a Samuel, on était en train de manger. Et puis Julien il est passé devant et il a fait un petit chousse à Samuel. Donc ça montre que voilà, on n'a peut-être pas le même maillot, ou même le même niveau, ou même la couleur de peau. Mais il y a un petit truc, quoi. C'est bien.
Voilà, un petit chousse pour Samuel Mugisha. En tout cas, Samuel Mugisha et Alaphilippe ensemble ce matin au petit déjeuner. Mais le Français a vite faussé compagnie au Rwandais une fois sur les routes.
Ah oui, il a dit vite assez de chousse. Hein. Les deux coureurs ne roulent pas vraiment sur le même circuit. Alaphilippe, c'est donc un des grands noms du peloton mondial. Plusieurs fois maillot jaune sur le Tour de France, vainqueur de grandes classiques. Comme Mugisha, lui, est à peine sur la route de la professionnalisation, le Rwandais s'entraîne depuis quelques mois en Vendée, dans l'ouest de la France. Il court avec une équipe locale sur de petites courses et aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu vu. Au Mondiaux, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'épreuve, abandonnant à mi-chemin, mais il faut dire qu'il n'avait pas vraiment la même préparation que les autres, selon son entraîneur d'un jour, Steven Lager.
Avec le très peu de courses qu'il a pu avoir cette année, c'était compliqué de faire quelque chose. Il a participé à des courses en élite, où il s'est fait remarquer quand même, parce qu'il a un très très bon niveau. Pour engranger le rythme, bon, après ça n'a pas suffi pour aujourd'hui, hein. Forcément on y allait pour prendre du plaisir et pourquoi pas prendre l'échappée si c'était possible. Bon, ça s'est pas fait, il a quand même pris du plaisir, il a fait la mi-course. C'est toujours intéressant pour lui et puis pour le Rwanda d'être au départ d'une course comme ceci. C'est difficile d'avoir du rythme pour suivre des cadors comme ça. C'est tous les coureurs, quand on voit le classement dans les 10 premiers, la plupart ils sont tous sur de France, donc forcément on comprend pourquoi il faut être au top.
Voilà, être au top, ça n'était pas pour aujourd'hui, mais Mugisha et Steven Lager regardent évidemment vers l'avenir.
Oui, évidemment, c'était important pour le Rwanda d'être visible sur cette édition des Mondiaux, car on le sait bien, le pays est candidat déclaré à l'organisation de la grand-messe du cyclisme mondial pour l'édition 2025. Les deux hommes, donc Mugisha et Lager, vont prolonger leur collaboration, ils vont multiplier les courses professionnelles en France, en tout cas ils espèrent, pour polir ces jeunes pépites de plus en plus exposées aux yeux du grand public. On s'en souvient, Cédric Joseph Arruya sur les pavés de Paris-Roubaix l'an passé, Samuel Mugisha donc, qui pose avec Alaphilippe au Mondiaux cette année, en attendant peut-être la suite et l'émergence de nouveaux jeunes Rwandais.
Mais bon, on va quand même dire au revoir à Martin Guez.
C'est gentil, au revoir Cédric, bonne soirée.
Bonne soirée à vous, mais on va parler de tennis et des internationaux de France. La terre battue de Roland-Garros dans l'ouest parisien, le tournoi qui a démarré aujourd'hui, un tournoi qui aurait dû se jouer au printemps, tournoi qui a été chamboulé avec l'épidémie de Covid-19, mais qui a donc bien démarré aujourd'hui. Bonsoir Frédéric Suto.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors vous allez nous raconter cette première journée à Roland-Garros qui s'est déroulée dans une ambiance vraiment très très particulière.
Oui, non seulement il n'y a quasiment pas de public, hein, pas plus de 1000 spectateurs par jour d'autorisés sur l'ensemble du site, hein, c'est le protocole sanitaire. 1000 personnes réparties sur les 10 cours où l'on jouait aujourd'hui, alors ça vous donne quelques grappes par-ci par-là. Et puis il y a la météo, autant il faisait très très beau et très très chaud début septembre, là depuis quelques jours, c'est la pluie, le vent et un thermomètre qui ne dépasse guère les 10 degrés. Alors les matchs ont pu avoir lieu, hein, malgré ce crachin, il a plu toute la journée un petit peu. David Goffin, le Belge, il n'était pas le plus à plaindre, il a joué sur le court central et a pu bénéficier du toit qui était fermé. Tête de série numéro 11 du tournoi, David Goffin qui avait atteint les quarts de finale ici en 2016, mais face au jeune Italien Jannik Sinner, il n'est jamais véritablement entré dans son match comme s'il n'était pas vraiment là sur le court.
C'était pas un bon match, non c'est sûr, mais j'étais pas là, j'étais pas présent. C'était un refus de passer l'obstacle et un état mental où je me sens un peu démotivé et c'est pas évident. C'est comme si on est un peu inquiet dans tout quoi. Dès qu'on arrive avec tous les tests, on sait qu'il y a des joueurs qui sont disqualifiés pour aucune raison dans chaque tournoi. On prie pour ne pas que ce soit sur nous un faux test positif. Puis voilà, une fois qu'on est négatif, on peut seulement aller un peu avec les règles, essayer de s'entraîner, etc. Donc, quand j'essaye un petit peu de retrouver les sensations, si en plus il y a ça, je sais pas si c'est une déprime, c'est un peu dur comme mot. Mais...
La déprime de David Goffin qui en est même à se demander, hein, Cédric, s'il va jouer d'autres tournois cette année.
Oui, contexte particulier, on l'a compris, ambiance morose, Victoria Azarenka, la Biélorusse, même si elle a gagné son match, eh bien, se pose elle aussi beaucoup de questions.
Oui, pourtant elle arrive en pleine forme. Victoria Azarenka, vainqueur du tournoi de Cincinnati qui s'est joué en août à New York et dans la foulée, toujours sur ces mêmes courts de New York, elle a atteint la finale de l'US Open, battue en finale par Naomi Osaka, la japonaise. Ici à Paris, Victoria Azarenka, ancienne numéro 1 mondiale, fait partie des prétendantes pour le titre, mais ce matin, vous allez l'entendre, hein, le cœur n'y était pas vraiment, même si elle s'est imposée assez facilement, hein, 6-1, 6-2, face à la monténégrine Danka Kovinic.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de communication entre les organisateurs et nous, les joueurs. Ils prennent des décisions sans nous consulter. Après, savoir si ça aurait été mieux qu'on annule le tournoi, je ne le dirais pas. On a tous envie de jouer. On ne peut pas vraiment répondre par oui ou par non. Mais encore une fois, ce que l'on aurait aimé, c'est être consulté, qu'il y ait un dialogue. C'est cela qu'on peut améliorer.
Victoria Azarenka qui a atteint ici les demi-finales en 2013.
Bon, mais Frédéric, est-ce qu'on a vibré quand même un petit peu aujourd'hui à Roland-Garros?
Oui, bien sûr. Et heureusement, on a vu quelques batailles épiques, typiques des matchs sur terre battue. Le japonais Kei Nishikori qui s'en est sorti en 5-7 face au britannique Daniel Evans. 5-7 encore, 14-12 dans la dernière manche pour Juan Ignacio Landero, l'argentin, face à son compatriote Federico Delbonis. Hein, près de 5 heures de jeu et une partie, Cédric, qui s'est terminée non pas à la bougie, mais sous les projecteurs. Hein, première année qu'il y a des projecteurs à Roland-Garros quand la nuit tombe. Désormais, les matchs peuvent continuer. Fantastique, on n'arrête pas le progrès. Autre thriller en 5-7, remporté par l'Autrichien Jurij Rodionov, 21 ans seulement, issu des qualifications. Il dispute son premier tournoi du Grand Chelem et une première victoire face à Jérémy Chardy. Jurij Rodionov qui a sauvé une balle de match, il était mené 2-7 à rien, balle de match contre lui, il s'est imposé en 5-7 à sa 7e balle de match à lui, 10 jeux à 8 dans la dernière manche. À retenir encore la victoire facile de Stan Wawrinka, le Suisse, face à Andy Murray, l'Écossais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et puis Benoît Paire a gagné.
Et Benoît Paire qui avait dû rester 10 jours dans sa chambre à l'US Open début septembre.
Ah oui, quelle histoire, hein. Il avait été testé positif au Covid-19 avant le début du tournoi, interdit de jouer à New York, confiné dans sa chambre durant 10 jours. Ensuite, retour en Europe, test négatif, il s'est aligné à Rome, éliminé dès le premier tour. Il est allé à Hambourg, testé de nouveau positif, mais autorisé à jouer. Il a abandonné. Le voilà à Paris, Benoît Paire, test négatif. Ouf, il peut jouer Roland-Garros. Paris où l'an passé, il avait enflammé le public, éliminé en 8e de finale par Kei Nishikori. Aujourd'hui, Benoît Paire a retrouvé un peu le sourire. Victoire en 3-7 face au Sud-Coréen Sunwoo Kwon.
Du bien, je suis content d'avoir gagné. C'est sûr, c'est toujours bien de gagner un match de tennis. Après, voilà, quand on arrive à Roland-Garros, on a envie d'être en forme, on a envie d'avoir passé des bons moments avant, on a envie d'être heureux. Là, je l'ai pas du tout été. Je suis resté pendant 15 jours enfermé dans une chambre d'hôtel. Honnêtement, j'aurais préféré largement être chez moi. Mais voilà, c'est sûr que c'est une victoire, c'est bien. Mais je suis pas non plus le plus heureux du monde d'avoir gagné ce match aujourd'hui. C'est cool de gagner à Roland-Garros, c'est cool. Mais ce que j'aime, c'est partager comme l'année dernière avec le public. Je suis content que le tournoi ait lieu, bien sûr. Je le répète, mais ça n'a rien à voir avec les autres années. Ça, c'est difficile.
Voilà, difficile. Hein. Sourire, tout petit sourire. Hein. Benoît Paire, le Français qualifié pour le deuxième tour, tout comme la Française Caroline Garcia, qui a beaucoup aimé le nouveau central avec son toit fermé quand elle jouait. Victoire en 3-7 pour Caroline Garcia face à l'Estonienne Anette Kontaveit.
Eh bien, merci Frédéric Chuteau pour toutes ces précisions. Vous serez de retour sur l'antenne dès demain sur RFI. On suivra notamment avec vous le grand favori Rafael Nadal. Rafael Nadal qui sera sur les courts. L'Espagnol affrontera le Biélorusse Igor Gerasimov, 83e à l'ATP. A priori, largement dans les cordes donc de Rafael Nadal.
LeBron James will wow. hit a three.
Wow.
Oh, how about it, LeBron James?
C'était la nuit dernière aux États-Unis, les commentateurs américains qui s'extasient sur les prouesses de LeBron James face aux Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest de la NBA. Le King a guidé les Los Angeles Lakers vers la finale de la prestigieuse ligue de basket nord-américaine. Bonsoir Loïc Piala, vous êtes notre correspondant à Los Angeles.
Bonjour Cédric.
Bonjour, effectivement, bonjour Loïc, puisque là-bas, effectivement, il est presque 15h et cette finale, elle a une résonance particulière, puisque 10 ans après le dernier titre des Lakers, l'année de la disparition de la légende Kobe Bryant, qui est mort en début d'année, donc, dans un accident d'hélicoptère.
Oui, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux et les commentaires qui sont tombés hier soir après la victoire des Lakers, on a souvent vu une photo de LeBron James à côté d'une de Kobe Bryant, parce qu'évidemment, c'est Bryant, vous le disiez, qui a porté l'équipe jusqu'au titre il y a 10 ans. Et que quoi? Que fera James? Son numéro 23 restera ici dans l'ombre du numéro 24. C'est logique après les 5 titres gagnés par Kobe en 2 décennies. Hier, en tout cas, King James a livré une prestation largement digne de son aîné. La NBA reste un sport de stade, donc en voilà quelques-unes. 38 points, 16 rebonds, 10 passes, son 27e triple-double en play-off, tout près du record détenu par une autre légende des Lakers, Magic Johnson. C'est sa 9e finale en 10 ans, sa 10e en tout. Seuls 3 joueurs, dont Bill Russell et Kareem Abdul-Jabbar, ont réussi une chose pareille. Tout cela, rappelons-le, à 35 ans, et avec la disparition tragique de Kobe Bryant en janvier dernier, cette 32e finale des Lakers, record absolu, va forcément être très spéciale. On n'a pas fini le travail, a prévenu le triple champion NBA.
À chaque fois que vous portez ces couleurs, vous pensez à lui, à son héritage, à ce qu'il a signifié pour cette franchise pendant 20 ans. Notre jeu est différent, mais on est proche en termes d'état d'esprit, avec cette volonté d'être le meilleur, de ne pas perdre, ce qui parfois vous empêche de dormir. Je fais partie des rares qui peuvent comprendre son état d'esprit et son parcours, du lycée jusqu'à la NBA. J'ai un regret. J'aurais aimé que ce match ait lieu au Staples Center avec tous nos fans.
LeBron James qui évoque les fans. Justement, Loïc, ça doit être plutôt étrange de vivre ce succès à 4000 km d'Orlando.
Je ne vais pas vous dire que la ville bouillonne, même si jamais les Lakers n'avaient passé autant de temps sans atteindre les finales. Pour info, les t-shirts, sweat à capuche et casquette champion de conférence sont déjà disponibles. Si ça vous intéresse, le Covid ici comme ailleurs empêche les rassemblements de masse. En plus, le rendez-vous attendu contre les Clippers en finale de conférence n'a pas eu lieu. Écoutez Jake, lui se promenait sur la plage ce matin, maillot d'Anthony Davis sur le dos.
It feels like a high school league right now.
En ce moment, on a un peu l'impression que c'est un championnat de lycée, franchement. L'ambiance ne monte pas, quoi. Oui, les playoffs sont diffusés au niveau national, mais ça n'en a pas l'air, en fait. C'est très différent d'une saison normale. Disons qu'il n'y a pas de vibe NBA en ce moment. Si les finales avaient eu lieu au Staples Center, oui, c'est clair, j'aurais traîné dans le coin. On habite à downtown, pas très loin.
C'est un mile or two walk for us, so.
Et la finale, ce sera soit contre les Boston Celtics, le rival historique, soit contre Miami, l'ancienne franchise de LeBron James. Et puis ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y aura une parade en cas de victoire finale, justement à cause du Covid.
Eh bien, merci Loïc Piala et bonne fin de journée à Los Angeles, puisqu'il est bientôt donc 15h là-bas. La finale, donc on n'en est pas encore là pour les Lakers qui attendent donc de connaître leur adversaire. Vous l'avez dit, Miami mène 3-2 face à Boston. Les deux franchises s'affrontent cette nuit, ce sera à 23h30, temps universel, dans quelques heures, enfin dans 1h30 maintenant. Voilà, Mondial Sport, c'est terminé pour cette fois. Merci à Diego Tenorio qui m'a aidé à préparer cette émission. Ne manquez pas demain Radio Foot International avec Olivier Pron. Ce sera à partir de 16h10, temps universel. On viendra sur un gros week-end de football. Vous l'avez entendu tout à l'heure, on n'a pas pu vous donner tous les résultats. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée sur RFI.